RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous, et en ce dimanche 17 juillet, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve. On va passer cette matinée ensemble avec, vous le savez, comme chaque dimanche en ce week-end des experts, deux rendez-vous. Jean-Luc Moreau sera là entre 8 et 10. Vous le savez, c'est notre expert auto, il répond à toutes vos questions auto chaque dimanche. Il sera là donc à partir de 8h et vous pourrez l'appeler au 3216. Mais pour débuter en ce dimanche matin, eh bien, vous la connaissez, vous l'appréciez. C'est notre experte animaux, c'est notre vétérinaire, c'est Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia.
Bonjour François, bonjour à tous. Alors, vous allez bien ?
Laetitia, je vais parfaitement bien. Bientôt les vacances, Laetitia ?
Oh ouais, mais dans quelques semaines quand même, hein.
Sachez,
pendant
tiens,
les Jeux Olympiques.
Exactement.
J'en profite.
En profitons-en, puisque vous le savez que, évidemment, RMC va vous faire vivre ces JO au Brésil. Et à cette occasion, il n'y aura pas de rendez-vous week-end des experts durant les Jeux Olympiques et durant le mois d'août. Mais on reviendra, évidemment, fin août, pour reprendre nos bonnes vieilles habitudes.
Et justement, les Jeux Olympiques, on va en parler aujourd'hui. Parce qu'il y a des athlètes humains qui y vont, mais il y a aussi des chevaux. Puisque la France est sélectionnée dans 3 disciplines équestres, le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet. Et nous avons une quinzaine de chevaux qui vont partir. Alors justement, on va prendre des nouvelles de ces chevaux, savoir un petit peu aussi comment ils sont préparés et si on a nos chances.
Est-ce qu'ils voyagent en business class ?
Ah, mais ils ont des avions qui sont spécialement apprêtés pour les chevaux. C'est incroyable, hein ?
C'est incroyable. Il existe des avions pour tout, en fait.
Et
même pour transporter les chevaux. On en parlera tout à l'heure. On découvrira aussi cette initiative intéressante, devenir propriétaire terrien en Écosse pour sauver des chats sauvages.
Et oui, c'est un site.
On achète un lopin de terre, en fait.
On vous a acheté un lopin de terre, vous avez même un titre de courtoisie avec, mais surtout, en achetant ce lopin de terre, vous faites une action pour sauver des chats sauvages en Écosse, puisqu'ils sont en voie de disparition. Et nous aurons une personne qui nous en parlera, qui nous dira pourquoi.
Bon, Laetitia, on découvrira aussi un hôtel un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un hôtel de luxe pour chats.
Et oui, qui vient d'ouvrir à Dinan, en Bretagne. C'est une clinique vétérinaire qui a décidé d'ouvrir un hôtel pour chats. Mais vous allez voir, c'est vraiment de luxe et ils sont vraiment bien, ces chats.
5 étoiles, c'est garanti ?
Ouais, je pense, oui. En tout cas, vous avez une webcam pour regarder les chats, pour savoir un petit peu s'ils vont bien.
D'accord, comme ça au moins on pourra vérifier. Et puis, on évoquera à partir de 7h les amours des animaux.
Eh ben oui.
Et croyez-moi, ça va être chaud bouillant, là.
Quand il fait chaud, si c'est
Saxon.
Les animaux aussi. Nous aurons avec nous notre ami Marc Giraud qui vient d'écrire un livre sur les amours bestiales, bien sûr. Donc il nous en parlera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est chaud.
Et oui, c'est très très chaud. Et croyez-moi, il y a des petites anecdotes assez croustillantes qu'il nous racontera tout à l'heure. Et puis bien sûr, le quiz de la vie privée des animaux, ce sera dans un instant. Toutes vos questions animaux dès maintenant, n'hésitez pas à nous appeler 3216 ou animaux@rmc.fr. Soyez les bienvenus. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. On salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin. On accueille Geneviève pour débuter. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça me fait tout drôle.
Nous aussi.
Nous aussi.
Je m'appelle Geneviève Rousseau, j'ai 88 ans et j'ai des problèmes avec un petit caniche gris. Allô ?
Oui, on vous écoute.
Qu'est-ce qu'il a comme problème ?
Voilà mon problème. Il a 14 ans et je suis seule avec lui et c'est presque mon enfant. C'est même mon enfant.
Ouais.
Et il a commencé par être sourd, mais là, ça posait pas trop de problèmes. Mais maintenant, il est devenu aveugle.
Que dit votre vétérinaire ? Est-ce que c'est une cataracte ?
Attendez, j'ai été voir le vétérinaire et il m'a donné, je vais vous donner le parce qu'il m'a dit qu'il avait de l'infection. C'est des cataractes, sûr.
Ah.
Mais il m'a donné,
ça fait rien. Quelle est votre question ?
Pardon ?
Quelle est votre question ?
Eh bien, la question, c'est que maintenant, à Biarritz, il y a une clinique qui opère les chiens de la cataracte. Bon, c'est pas donné, mais bon, j'irai encore à faire ce sacrifice parce que j'y tiens tellement à mon chien, mais il a 14 ans.
Et vous voulez savoir si ça vaut le coup, c'est ça ?
Voilà.
D'accord.
Eh bien, écoutez, Geneviève. Geneviève, alors oui, votre caniche donc a ce qu'on appelle une cataracte de vieux chien, quoi, une cataracte liée à la vieillesse, c'est quoi? C'est le fait que le cristallin qui est la lentille qui se trouve à l'intérieur de l'œil que nous avons et que le chien a et que le chat et que beaucoup d'animaux ont se vieillit, et quand il vieillit, il s'opacifie
comme nous.
Comme nous.
Et donc après,
du coup, la vue diminue, la vue se trouble, et puis bah oui, on voit plus rien.
C'est-à-dire qu'en fait, la vue s'opacifie, quoi. Ça devient tout blanc, tout trouble.
Un voile que l'on a qui, d'accord, en plus, devient de plus en plus opaque, et donc on voit de moins en moins. Donc c'est progressif. Progressivement, votre chien, Geneviève, commençait à moins voir plus les ombres que des images nettes. Et puis à un moment, il voit plus quand ça s'opacifie complètement. Et heureusement, on a cette fameuse opération qui est exactement la même que celle que nous on a quand on a la cataracte. C'est quoi? Alors c'est ce qu'on appelle la phacoémulsification. Alors vous allez voir sur internet, c'est très simple. C'est une petite sonde que l'on met dans le cristallin qui pulvérise le cristallin, et après on absorbe le cristallin. Du coup, bah le cristallin n'est plus là, le cristallin malade, enfin vieilli, est enlevé sans douleur, hein, je le dis bien. Après on peut mettre une lentille à la place, ou chez le chien aussi on peut ne pas rien mettre, mais il voit quand même. C'est-à-dire que le chien se réveille, il voit, et ça fait une différence.
Et il voit comme avant.
Bon, il voit pas exactement l'image très nette, mais il voit quand même.
Oui, bien sûr.
Donc, mais c'est ce qui est extraordinaire.
Il nous reconnaîtra, il reconnaîtra son environnement, etc.
Exactement, il va plus cogner contre les meubles, contre les murs, etc. Donc moi, je vous conseille. Alors c'est pas le fait qu'il ait 14 ans. Vous savez, la vieillesse, je dis toujours ça. La vieillesse n'est pas une maladie. On peut très bien, et on opère beaucoup de chiens âgés, parce que en fin de compte, les opérations, ça concerne souvent les chiens jeunes ou les chiens âgés, les jeunes parce que on les stérilise, ou parce qu'ils ont souvent des accidents, et puis les chiens âgés parce que ils ont des maladies liées à l'âge. Donc ne vous inquiétez pas, Geneviève, vous faites un bilan avec le vétérinaire. Vous savez, comme nous on fait un bilan avec l'anesthésiste, et c'est exactement la même chose. Il va faire un bilan avec votre chien, vous dire ok, on peut ou pas anesthésier ce chien. Il va peser le pour et le contre. S'il a des problèmes de reins, s'il a des problèmes de cœur, on va peut-être peser le pour et le contre. S'il n'a pas ces problèmes-là, on va l'opérer, d'accord, il va se réveiller. C'est une petite anesthésie. Ce qu'on veut, c'est juste qu'il dorme pendant qu'on lui fait cette opération qui, comme je vous dis, n'est pas douloureuse. Nous, on le fait, on est vaillant, hein. On nous fait juste une anesthésie locale quand on nous opère. On est obligé
de
faire...
C'est pas très agréable comme opération, parce que bien sûr, on a l'œil ouvert, on voit qu'on nous triture l'œil, mais bon...
C'est pour ça qu'on anesthésie les chiens, parce d'accord, que si on leur disait juste « ne bouge pas », même si ça leur fait pas mal, bien sûr qu'ils boucheraient, parce qu'ils auraient peur. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, Geneviève, et faites confiance au vétérinaire.
Très bien, on va revenir dans un instant, Laetitia, avec Julien, qui va nous parler de son British Short Hair, qui est non castré.
Très beau chat.
Voilà, mal
je
non castré.
Je sais de quoi je parle, puisque j'en ai un à la maison.
On va en parler dans un instant. Le 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, Laetitia m'accompagne jusqu'à 8h, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le retour du week-end des experts animaux avec notre veto Laetitia Barlerin. Notez que dans un peu moins de 10 minutes, on retrouvera la météo et les infos de 6h30. Julien, dans une minute, mais auparavant, la tia-tia, c'est notre quiz de la vie privée des animaux. Attention !
Et une spéciale amour des animaux. Alors c'est une chose que j'ai glanée dans le livre de Marc Giraud, Le sexe Apple du crocodile. On va en parler tout à l'heure de ce livre sur les amours bestiales.
Le sexe Apple.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Sexe Apple.
Non, c'est sexe Apple, oui.
C'est pour ça, parce que vous avez un iPhone.
Oui, c'est peut-être pour ça, parce que l'iPhone est juste à côté du livre.
Apple,
donc, je sais n'importe quoi. J'ai découvert que des chercheurs ont aussi découvert que les mâles mouches de vinaigre, alors les mouches de vinaigre, c'est les drosophiles. Alors, c'est des mouches qui sont beaucoup étudiées dans les laboratoires, parce qu'elles se multiplient beaucoup. Ils ont découvert que les mâles mouches de vinaigre avaient un penchant pour l'alcool, et non pas le vinaigre d'ailleurs, dans certaines situations.
Dans certaines situations.
Liées, bien sûr, aux amours des mouches. Alors, soit avant d'aller draguer une mouche,
C'est peut-être pour casser un petit peu cette timidité.
Voilà.
La mouche timide, ça existe. Hein. Elle est là, elle fait bzz, bzz, dans son petit coin. Bzz, bzz, bzz.
Soit quand il venait de conclure.
Pour fêter ça. Oui. Allez, trinquons.
Soit quand il prenait un râteau.
Ah oui, ça c'est pour oublier. Ça c'est boire pour oublier.
Voilà.
Ça existe aussi.
Soit c'est boire pour se donner de l'énergie.
De l'énergie.
Soit c'est boire pour fêter la chose. Soit c'est boire pour oublier. C'est un peu ça.
Ah là 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 là. Laetitia, c'est pas facile hein, votre truc là. Je n'en ai aucune idée.
Est-ce que vous connaissez pas la vie sexuelle des mouches?
Non. Vous pouvez me passer le livre de...
Non. Il y a la réponse dedans.
Je ne vais pas regarder. C'est ça. Bon, allez, animaux@rmc.fr, n'hésitez pas à m'aider. Et on enchaîne avec Julien qui est là. Bonjour Julien.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Bonjour Julien.
Vous allez bien?
Très bien. Alors vous avez une réponse pour ma question ou pas?
Moi je dirais que quand il se prend un râteau.
Oh.
Pourquoi? Ça vient comme ça tout de suite.
Je sais pas, je pense pour oublier.
La mouche
parce
oublie
que
le râteau.
Ça, pour fêter ça, on le fera à deux.
Alors, Julien, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors, vous avez un British short
oui,
hair.
Oui, comme vous, Laetitia, de la même couleur en plus.
Moi, en plus.
Ça, je sais pas si on a le droit de dire les marques, mais j'appelle ça un chat Whiskas.
Voilà, bah oui, mais.
Voilà.
Entre donc, nous, il faut que je vous dise, mon chat a fait la pub Whiskas.
Ah, ben bah, voilà.
Voilà.
Il est très beau. Alors, parce que, il est très beau.
Donc, il a été payé en croquettes.
J'espère qu'il y en a eu beaucoup. Hein.
Oui.
Alors, moi, je vous appelle parce que j'ai trouvé mon chat en fait, dans un élevage.
Oui.
Il y a 4 ans de cela maintenant. Et en fait, quand j'ai contacté l'éleveuse il n'y a pas très longtemps pour lui donner des nouvelles, elle m'a dit qu'elle refaisait une portée avec les mêmes parents. Et il s'avère que les chats ont exactement la même couleur que mon chat. La même
et
robe.
Donc, vous avez craqué.
Donc, je suis allé là-bas avec ma compagne. C'est une portée, je crois qu'ils sont 6 ou 7. Je crois qu'il y en a 6, il me semble.
Oui.
Et donc, en fait, on hésite énormément parce que on a peur en fait de la réaction de mon chat, qui est un chat très gentil, très câlin, qui ronronne beaucoup, qui miaule beaucoup aussi.
Oui.
Et donc, on a peur que si on amène un nouveau chat, qu'il y ait de la jalousie et que du coup, ben voilà, que ça se passe mal.
Non.
Donc, Moi, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que c'est mieux? Alors, sachant que mon British est entier pour le moment.
Oui.
Je préfère le garder entier parce que peut-être dans quelques temps, je vais faire une portée, je ne sais pas encore.
Oui.
Et donc, ma question, c'est de savoir, sachant que deuxième, je vais le faire stériliser, que ce soit un mâle ou une femelle. Et on hésite entre les deux parce qu'on a peur que si c'est un mâle, eh ben, qu'il y ait un affrontement entre les deux. Et on se dit que peut-être si c'est une femelle, ça passera plus facilement. Et la deuxième question, c'est que ma compagne, elle a peur de voir mon chat, en fait, s'occuper de sa petite sœur, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah ben, c'est sûr qu'il s'occupera de sa petite sœur.
Aïe, aïe, aïe.
Il n'y a pas le tabou de l'inceste, hein, vous savez, hein, chez
ça,
les chats. Hein,
mais le fait qu'elle soit stérilisée, ça ne peut pas calmer un petit peu ce genre d'ardeur?
Ah si, si, ah bah oui, c'est à partir du moment où elle est stérilisée...
Si elle a plus sa chaleur...
Elle a plus de chaleur, parce que ce qui attire le mâle, c'est quand même les phéromones sexuelles, c'est le comportement de la chatte, parce qu'elle a un comportement où vraiment elle attire les mâles. Elle miaule, elle se roule, elle est féline, enfin voilà. Et puis en plus, elle sécrète beaucoup de phéromones sexuelles qui attirent les mâles. Donc tout ça, c'est fini. Quand elle sera stérilisée, elle n'aura plus tout ça. Donc il va la laisser tranquille.
Logiquement, il la laissera tranquille. En fait, elle a peur d'être assistée, on va dire qu'elle a peur d'assister à ça et... Elle a pas envie.
Non, mais c'est, voilà. Alors, concernant la première question, c'était est-ce qu'il sera jaloux du chat? Non, parce que ça sera un chaton qui va venir à la maison. Au contraire, il va l'accueillir avec des souffleries et des crachats,
oui,
quoi, on va dire.
Voilà,
il va feuler pour dire c'est chez moi ici. Qu'est-ce que
d'accord.
tu veux? Et puis après, il va voir que c'est un super petit mignon chaton et on peut jouer avec et c'est super et voilà, tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. Là, il y a aucun problème dessus. Alors, le sexe après, c'est le choix du sexe.
Voilà.
Alors, si c'est de mâle et que tous les deux sont castrés, il n'y aura pas de problème.
Il n'y en aura qu'un qui va être castré.
Ah ouais, alors là, s'il y en a.
Que le plus jeune.
Alors, normalement, quand vous castrez un mâle ou quand vous stérilisez une femelle, donc ils n'ont plus de sexe quelque part, c'est le cas de dire. Pour l'autre mâle, donc il va normalement les laisser. Mais c'est vrai que deux mâles ensemble, moi je prendrais plutôt une femelle.
D'accord.
Pour plus de sûreté, parce que je pense qu'il va mieux l'accepter qu'un mâle.
D'accord.
Voyez.
Parce que ce qu'on a peur, voilà, c'est que ça se passe mal, entre guillemets, justement, c'est le cas de le dire.
Et qu'ils se prennent en grippe.
Après, mon chat, il est très, très doux, très calme, donc peut-être que ça se passerait bien.
Mais oui. Ah non, mais quand il sera chaton, le si vous prenez un mâle, s'il est chaton jusqu'à son adolescence, tout va bien
ça,
se passer.
C'est après que ça risque de dégénérer.
C'est quand le l'adolescent va commencer à sécréter des hormones mâles ou l'autre, il va sentir les hormones mâles, donc ça bien va sûr un peu se voilà.
Et le fait qu'il soit castré, il y aura pas ce genre de
problème
normalement.
Ah, il y aura plus. Voilà. Alors faire attention quand même parce que il arrive que s'il y a même qu'un seul qui n'est pas castré dans le l'eau, il cherche quand même la bagarre. Ça d'accord arrive. Je dis pas que c'est à tous les coups, mais ça peut arriver. Et ça peut aussi arriver une chose, c'est que le mâle que vous avez aujourd'hui peut commencer à marquer. Chose qu'il ne faisait pas.
Voilà. Ça, en fait, c'est un truc qu'il n'a jamais fait. J'ai déménagé à deux reprises depuis que je l'ai, et il n'a jamais, vraiment, jamais marqué son territoire dans aucun appartement où je suis passé.
Parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de femelle. Or, l'arrivée, mais même l'arrivée de la chatte, même si vous la stérilez, stérilisez, peut. Alors, je dis bien, peut. C'est pas à 100% sûr. Il peut, ça peut aussi très bien se passer. Il ne marque pas. Et de toute façon, vous allez stériliser celui qui va ou celle qui va arriver. Et il y aura aucun problème et tout le monde va bien se sentir. Voilà, c'est le risque. Le risque, c'est qu'ils ne s'entendent pas.
Je peux vous poser une dernière question.
Oui, allez-y.
Avant qu'on finisse. Donc là, logiquement, on est censé l'accueillir dans un mois, le petit chaton.
Oui.
Donc ma question, c'est de savoir, parce qu'on a entre guillemets seulement un deux pièces. Donc avec la chambre, le salon et la salle de bain séparés. Et mon chat a l'habitude de dormir avec nous la nuit. Et je sais que quand on accueille un nouveau petit chaton, il faut les séparer. Donc est-ce que c'est mieux de le mettre dans la salle de bain ou bien je peux le mettre peut-être dans la chambre?
Bon, d'abord Julien.
Une prise de territoire.
Alors d'abord Julien, vous n'allez pas du tout séparer les chats la nuit. Ça sert à rien.
On les laisse ensemble.
Ils font leur vie. Mmh. Alors, le chaton, les premiers jours, faudrait qu'il soit près de votre lit. Ça, c'est très important. Il vient d'être, il sera arraché, si vous voulez, à sa fratrie et à sa mère. Donc, il va être un peu paumé. Donc, il faudra le mettre près de votre lit juste pour le rassurer. Dès qu'il va miauler, hop, une petite caresse, il va s'endormir. Mmh. Mais ne les séparez jamais. Si vous les séparez, c'est là où vous allez
avoir
des problèmes, c'est-à-dire des problèmes d'entente entre
bien
les
sûr
deux chats. Donc ne les séparez pas, ils font leur vie, ils vont sur votre lit ou pas, laissez-les faire.
Merci beaucoup Julien. Laetitia, on va revenir dans un instant avec Evelyne qui va nous raconter une histoire incroyable. Franchement, c'est de Hitchcock. Sa voiture a été attaquée par un corbeau. Incroyable, hein. On va retrouver Evelyne dans un instant.
Il y avait des diamants dans la voiture ou quoi?
Peut-être, on va voir ça. Le 3216, animaux@rmc.fr. Vous pouvez poser vos questions à Laetitia Barlerin ce matin, bien sûr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux avec notre veto, qui sait.
Le veto, mais j'arrive pas à appuyer sur le bouton.
Ouais, vous n'avez pas le bras assez long, Laetitia.
J'ai pas encore le bon réflexe.
Voilà. C'est vrai que vous débutez en radio, hein, Laetitia.
J'ai parlé dans le vide, j'ai dit, tiens, il y a un problème.
C'est bizarre, le veto, personne n'entend. 3216 ou bien animaux@rmc.fr pour rejoindre notre vétérinaire ce matin. N'hésitez pas. Laetitia, bientôt c'est le grand rush.
Oui,
sur RMC.
Et oui.
Attention.
Ah non, mais
vous savez que voilà.
Pas mal d'heures quand même,
ouais,
hein, direct, monsieur François Sorel.
Ça va être un peu compliqué, Laetitia.
Vous allez battre les records.
Je compte sur vous pour m'aider un peu.
Ah bah j'espère bien, oui, je donnerai, oui. Enfin, je resterai pas toutes les 36 heures, c'est ça?
30.
À 30.
On va commencer par rajouter des heures. Déjà, je m'en fais 30.
Non, mais je suis un peu de Marseille,
plus,
certaines fois.
Bon, on rappelle quand même ce que c'est le concept du Grand Rush. RMC bouleverse sa grille des programmes à partir du vendredi 29 juillet 14h jusqu'au samedi 20h, jusqu'au samedi 30 juillet. Pourquoi? Parce que c'est le chassé-croisé des juétistes et des
Aoussiens. Oui, bien sûr.
Parce qu'on sait que ça va être la pagaille sur les routes. Et à cette occasion, j'aurai le plaisir de vous accompagner durant 30 heures non-stop sur la route de vos vacances.
Même la nuit, hein. Entendez
même
bien.
La nuit.
30 heures sans dormir.
Voilà, on va essayer. Alors évidemment, il y aura plein de personnes avec moi, toutes d'animateurs, etc. Plein de journalistes, des reporters qui seront aux endroits, on va dire, un peu chauds, hein, que ce soit les aéroports, les gares, les autoroutes, etc. On aura plein de surprises, plein de rendez-vous sympas qui font penser aux vacances. C'est pas le premier Grand Rush, hein, ça se retrouve, enfin on fait ça chaque année. Et vous serez là, Laetitia.
Voilà, pour donner des conseils voilà sur les animaux.
Bien sûr.
En vacances, pendant le voyage, et voilà.
Et si vous voulez participer au Grand Rush, parce que vous partez justement en vacances entre le vendredi 29 et le samedi 30, vous pouvez nous envoyer d'ores et déjà un mail grandrush@rmc.fr. Grand Rush, et le Rush, ça s'écrit R-U-S-H, bien sûr, @rmc.fr, ou bien nous joindre même dès maintenant, hein, au 32-16, hein. N'hésitez pas. Vous partez le 29 ou le 30 juillet, vous voulez participer à cette émission. Il y aura des cadeaux, bien sûr, hein, pour tous les participants. 32-16 ou grandrush@rmc.fr. Voilà. Parenthèse refermée. Et il me tarde de vous retrouver donc pour ces 30 heures le vendredi 29 à partir de 14h. On retrouve notre rendez-vous animaux, Laetitia, et on accueille Evelyne qui est là. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Bonjour Evelyne.
Bienvenue.
C'est pas Evelyne, c'est Marie-Christine, il y a une erreur.
Ah, oh, c'est pas. Bon, on est désolé.
Oh là. Alors Laetitia, c'est pas gentil de se moquer parce que croyez bien que ce qui nous est arrivé, c'est pas drôle et ça nous a bien abîmé la
alors,
voiture.
Racontez-nous.
Alors, je vous raconte depuis le début. Hein. Tant pis, je vous retiens 5 minutes.
Allez-y.
Figurez-vous qu'un matin, on a une maison en Corrèze.
Oui.
Et figurez-vous qu'un matin, j'étais en train de boire le café dans la salle à manger. D'un seul coup, j'entends taper dans le carreau, dans la baie vitrée.
Oui.
Alors, je me retourne et qu'est-ce que je vois ? Un corbeau qui fonçait dans la baie vitrée, qui voulait rentrer dans la maison.
Oui.
Et il s'était accroché, vous savez, sur le bas de la porte-fenêtre et qu'il mettait des grands coups de bec dans la... Alors j'ai lâché mon petit Jacques Russell que vous connaissez parce que je vous avais déjà appelé pour un problème de maladie atopique.
Oui.
Et puis figurez-vous que bon, on en reste là. Il lui a fait peur, l'oiseau est parti. Et puis l'autre jour... Je monte dans la voiture, puis je dis à mon mari, mais qu'est-ce que c'est que la voiture, elle est toute abîmée comme ça? Vous savez, vous avez la fenêtre et vous avez la bande de caoutchouc.
Oui,
en
oui,
bas
oui.
De la fenêtre.
Oui.
Toute piquée comme un chat qui aurait fait ses griffes dessus. Ah, mais il m'a dit, non, c'est pas un chat. Il m'a dit, c'est un corbeau. Il est venu, il s'est accroché sur les bords de la fenêtre de la voiture. Il a tout abîmé la voiture à coups de griffes, à coups de bec. Mais il m'a dit, il n'en est pas resté là. Il a complètement abîmé le pare-choc de la voiture. Ben, le pare-choc de la voiture du voisin, elle est morte.
Le corbeau. Ça, c'est le
corbeau. Alors, quand j'en ai parlé au tout, je me suis dit, mais c'est toujours le même.
Et c'est toujours
alors,
le même.
Et c'est toujours le même. Alors, quand on en a parlé autour de nous, moi, j'ai un collègue qui m'a dit, écoute, peut-être que dans le caoutchouc, maintenant, les nouvelles matières avec, vous savez, maintenant, il faut la nature. Peut-être qu'il y a
oui.
des ingrédients des naturels ingré... là-dedans.
Voilà, des glucides.
Voilà. Ouais. Mais ça nous a ruiné le caoutchouc de la voiture. Mais il y a quand même un problème quand même parce qu'ils veulent rentrer à la maison, ils tapent au carreau. Mais je vous jure, comme dans Hitchcock. Alors, on a déjà eu le problème avec des petits oiseaux, mais là, on a su pourquoi. Parce qu'on leur a mis des petites cabanes et il y avait un nid de bourdon qui s'était installé. Bon, là, on a su pourquoi. Mais le corbeau, on ne sait pas.
Le corbeau, quand il veut rentrer, alors soit il est attiré par deux choses. Soit le reflet dans la vitre ou dans un rétroviseur, etc. Le reflet, son reflet, en fin de compte, parce qu'il voit un oiseau. Et voilà, comme il est aussi assez territorial, et ben il veut justement éjecter cet oiseau, le menacer. Et puis comme il s'en va pas, parce qu'il est, il y a le reflet, et ben il attaque encore plus. Vous voyez, il y a d'abord ça. Donc, mais à un moment, il comprend quand même.
C'est bizarre parce que c'est pas bête un corbeau.
Très
hein.
Oui, mais ils expérimentent. Ouais, ils expérimentent. Donc voilà, ils se voient la première fois dans un reflet. Et voilà. Que ça soit un rétroviseur de voiture, le reflet de la vitre, le reflet de la porte-fenêtre, etc. Ça mais bon, ils tapent parce qu'ils veulent enlever ce congénère qui est derrière la vitre et qui pense voir et en fin de compte ils le voient pas. Soit aussi, vous savez, les corbeaux sont attirés par des choses incroyables, comme des choses qui brillent. Alors ça peut être des bouts de métaux, ça peut être des diamants, ça peut être des bijoux, ils peuvent, vous savez, ils sont kleptomanes, hein, les corbeaux. Exactement comme les hirondelles, ils peuvent les hirondelles, les pies bavardes, ils peuvent prendre des bijoux et les prendre et les mettre dans leur nid. Alors on n'explique pas ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses pour savoir pourquoi ces oiseaux-là sont attirés par ce qui brille. Ça peut être des métaux, ça peut être d'autres choses qui brillent au soleil. Pourquoi ? Parce que, alors, d'abord, on pense qu'ils prennent ces choses-là pour impressionner d'autres corbeaux. Ça, c'est une des hypothèses des chercheurs. Soit parce qu'ils aiment la nouveauté. Ils sont ce qu'on appelle néophiles, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, ils aiment, mais ils veulent expérimenter la nouveauté, le prendre dans le bec, le prendre avec eux et savoir un peu s'ils peuvent le manger, si ça peut leur servir à quelque chose. Soit, moi, je pense que c'est plus ça. Vous savez, ils mangent des insectes et il y a des insectes qui brillent, vous savez. comme des coléoptères, et ils peuvent prendre ça pour des coléoptères, ou alors aussi, vous savez, les œufs, ils adorent les œufs, les corbeaux, ils adorent manger les œufs. Mmh. Et les œufs brillent aussi dans les nids, donc ils aiment bien aussi les prendre et les manger. Donc il y a ça. Alors concernant votre problème, Marie-Christine, je pense qu'il va falloir utiliser votre chien, n'est-ce pas, parce que d'abord, quand il essaye de rentrer chez vous, donc peut-être qu'il est attiré par des choses qui brillent, ou peut-être parce que il a son reflet dans la vitre. Dans ces cas-là, vous lancez le chien, et comme ça, petit à petit, il va savoir que...
Le corbeau, à mon avis, ne doit pas faire le malin devant le chien, non?
Ah, si, il s'attaque quand même au chien. Mais bon, un Jack Russell, ça ne se laisse pas faire par un corbeau.
C'est sûr, hein, c'est
donc
sûr.
Voilà, là, vous avez le chien qui vraiment ne se laisse pas faire. Donc je pense que là, le corbeau, il va se dire, bon, ouais, ici, c'est la maison, il ne faut pas aller. Alors concernant les voitures, ça, c'est plus problématique parce que vous n'avez pas votre Jack Russell qui est là. Et puis peut-être aussi que les caoutchoucs peuvent attirer par le goût, parce qu'ils ont peut-être un goût sucré, justement. Le corbeau, qui est un corbeau, est un charognard et un omnivore, c'est-à-dire que tout ce qui est charogne, il le mange, et tout ce qui est fruits, mais aussi céréales, mais aussi protéines animales, il le mange. Il mange de tout. Donc il a peut-être goûté ça.
Il trouve ça pas mal.
En plus, quand c'est bien réchauffé par le soleil, ça doit être pas mal non plus aussi pour lui. Alors là, à part mettre recouvrir votre voiture par une protection, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre.
On va revenir dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux. Et puis, on retrouvera la question de Josette, qui a un chat de 8 ans qui exige être à ses côtés pour prendre son repas. Voilà.
Comme le roi.
Il veut que Josette soit
soleil.
Là. Exactement. Exactement, Laetitia. On retrouve tout ça dans un instant. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts animaux sur RMC. N'hésitez pas à joindre Laetitia Barlerin, 3216 ou bien animaux@rmc.fr. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
C'est reparti pour ce week-end des experts, les animaux avec notre véto Laetitia Barlerin. Et tout de suite, notre quiz de la vie privée des animaux. La tia-tia, attention.
Alors, figurez-vous que des chercheurs ont découvert que les mâles mouches de vinaigre, ce qu'on appelle les drosophiles, avaient, ces mâles, un penchant non pas pour le vinaigre, mais pour l'alcool, dans certaines situations de leur vie amoureuse.
D'accord. Donc la mouche aime bien l'alcool, mais dans certaines situations.
Voilà. Soit avant d'aller draguer.
Histoire de se dire, hein, voilà, ça me donne un peu de courage. Hein.
Soit quand il venait de conclure, donc pour fêter la victoire.
Pour fêter ça. Voilà.
Soit quand il prenait un râteau. Donc et ça, c'est par déception.
C'est pour oublier.
Pour oublier.
Ouais. Soit pour se donner du courage, soit pour fêter ça, soit pour oublier. Bah, moi, j'en connais qui font ça.
Pour les trois.
Pour les trois. je n'en ai aucune idée. Mais alors là, vraiment aucune. Je vais dire, allez, ça leur donne du courage, Laetitia.
Quoi, avant d'aller draguer.
Ouais. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Eh bien, mon cher François.
Ouais.
Eh bien, ce n'est pas ça.
Je déteste cette sonnerie.
Allez. Je vous donne une deuxième chance.
Je vous donne non pas un deuxième indice, mais une deuxième chance. Donc, si c'est pas pour se donner du baume au cœur, c'est peut-être ou pour fêter, d'accord ?
Oui.
Soit. Et je veux dire pour fêter, allez.
Quand ils viennent de conclure.
Voilà, c'est ça, pour fêter.
De copuler. Voilà.
Copuler, voilà, ils boivent un petit coup. Chérie, tu étais super, c'était top. Gros bisous. Enfin, gros bisous. Exactement. Parce que la mouche fait bzzz. C'est gros bisous.
Je suis désolée, mais c'est pas ça.
Oh non. Oh non, Laetitia. Mais c'est pas possible. En tout cas, je vois que là, avec votre quiz, vous avez fait mouche.
Non, c'est très bon. En fin de compte, vous savez ce qu'ont fait ces chercheurs, parce qu'ils aiment bien s'amuser avec les mouches de vinaigre.
Ah ben oui.
Alors, ils ont mis des mâles en compagnie. Alors, d'un côté, vous avez eu un groupe de mâles en compagnie de mouches, on va dire vierges, prêtes, voilà, les fiancés potentiels, on va dire.
D'accord.
Et de l'autre côté, ils ont mis des mâles avec des mouches qui étaient déjà fécondées et qui ne voulaient refuser leurs avances.
Oui, parce qu'elles avaient elles avaient tout ce qu'il faut, quoi.
Voilà.
D'accord.
Et au bout de 4 jours, ils ont repris les mâles, donc soit de 4 jours de mariage ou d'autres d'abstinence, donc d'accord. Il y a eu ces deux groupes, ils leur ont proposé entre de l'eau et de l'alcool. Et alors, ceux qui avaient, qui s'étaient bien mariés, ils ont été boire de l'alcool, de l'eau, pardon. Et ceux qui avaient été frustrés, n'est-ce pas, et qui avaient raté leur rendez-vous sentimental, eh ben, ils ont été direct sur l'alcool.
Donc c'était boire pour oublier.
C'était boire pour oublier.
Ça alors, c'est incroyable. Bon.
Et, ouais. Laetitia, et on l'a démontré chez la mouche.
Oui, chez la mouche. Bon, voilà, la mouche, hein, après on ne sait pas trop. Hein, ne commençons pas à faire des parallèles.
Voilà, donc si on vous dit, ah oh, bah tu t'es pris un râteau, t'as bu, et tu dis, bah je fais comme la mouche.
Je fais comme la mouche, en fait, c'est scientifique.
C'est scientifique.
Josette est avec nous au 32-16. Bonjour Josette.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Bonjour Josette.
Bienvenue sur RMC, bonjour. Josette.
Merci de prendre ma question. Alors voilà, j'ai mon chat Minou qui a 8 ans et demi maintenant et qui exige chaque fois qu'il grignote que je sois à ses côtés.
Alors exiger, ça veut dire quoi ?
Eh bien, il vient me chercher dès que je m'éloigne de sa gamelle, ne serait-ce que d'un mètre, il faut que je sois à côté de lui.
Alors, j'aimerais bien savoir comment il fait pour... Il vient vous voir, il vient se frotter
il
à vous
Il vient me voir où que je sois. Oui. Et bon, il a sa gamelle dans la cuisine. Et bon, dans la cuisine, moi, je vaque. Et il vient me chercher.
Il se frotte à vous ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se frotte à vous ?
Il se frotte à moi et il attend. Ou alors, il s'assoit devant moi, il me regarde, il attend. Et donc, attend que je regagne avec lui la gamelle.
Et donc vous restez près de la gamelle, vous le regardez, et là il mange.
Je reste près de la gamelle, je lui gratouille la tête, un petit peu le ventre, ça va. Alors je pense que ça suffit, mais dès que je m'éloigne, il revient me chercher.
Mais alors si vous laissez sa gamelle et que vous partez, il va pas du tout manger ?
Eh bien, je dois vous dire que quand il nous arrive de nous en aller, ce que l'on fait très très peu, lorsque l'on revient, bon, l'assiette de croquettes a à peine été touchée.
D'accord. Bon, vous inquiétez pas, il va pas se laisser mourir de faim si vous le laissez.
Non, bien sûr que non.
Mais c'est mignon, hein, quand même. Alors, ceux qui ont des chiens vont dire, ouais, c'est un signe de dominance, parce que les chiens qui sont un peu les chefs à la maison aiment bien qu'on les regarde manger.
Ah bon.
Donc voilà, ils exigent qu'on les regarde manger un petit peu comme le roi soleil, vous voyez, aimait bien qu'on le regarde prendre son déjeuner, son petit déjeuner et son dîner. Chez le chat, il y a rien à voir avec la dominance. Moi, je pense que c'est plus un rituel qui s'est établi entre lui et vous. Ce rituel, c'est une habitude apaisante pour lui qu'il aime bien parce qu'il aime bien que vous soyez là. Quelque part, vous lui rassurez.
Oui, sans doute. Pardon de vous interrompre. C'est un chat, bon, qui est arrivé chez nous. Bon, il a été abandonné. Il est arrivé chez nous. Il avait 7 mois, à peu près. Mais il n'a, au tout début, il n'a pas développé ce rituel. C'est assez récent.
Oui, donc c'est arrivé sur le tard. Ouais.
Oui. Mais vous savez, Josette, et les chats développent beaucoup de rituels. Par exemple, moi, mon chat précédent, il avait développé comme rituel, et pas tout de suite, au bout de 2-3 ans, c'est que quand je rentrais à la maison le soir, il tournait autour de sa queue pour me dire bonjour. Alors c'était pas du tout un toc, c'était pas du tout un trouble du comportement. Il allait très parfaitement bien, ce chat, mais il le faisait qu'avec moi. Il le faisait avec personne d'autre, il ne le faisait dans aucune autre situation, mais il tournait autour de sa queue. Et je pense qu'un jour, il était tellement excité de me voir qu'il a tourné un petit peu autour de sa queue comme ça, et que là, je l'ai caressé, ou j'ai rigolé, ou je l'ai regardé, ou j'ai souri. Et du coup, ça a amplifié son comportement, ça l'a aggravé. Et là, je pense que pareil, Joseph, un jour, vous étiez, ou peut-être au début, vous aimiez bien le voir manger, parce qu'il y a beaucoup d'amour quand on donne à manger.
Bien sûr.
Et que beaucoup d'affectif.
Il l'a remarqué.
Alors que lui, voilà. Met pas du tout d'affectif,
bien sûr, bien sûr.
Je vous rassure là-dessus. Et donc, il l'a remarqué, et c'est devenu un rituel entre vous et lui. Ne vous inquiétez pas, s'il a faim et si vous n'êtes pas là, il ira quand même manger.
Il ira quand même manger. Merci beaucoup, Josette. On enchaîne avec Anne-Marie avant d'en trouver la météo et les infos de 7h sur RMC. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour François, bonjour Laetitia.
Bonjour Anne-Marie.
Voilà, bonjour. Je voulais vous poser une question. Voilà, nous venons de perdre notre Labrador il y a à peu près un mois.
Oui, il avait quel âge ?
14 ans.
Ah oui, bel âge, hein ?
Un bel âge. Comme a dit le vétérinaire, il a eu une belle vie en plus.
Ah bah écoutez, à 14 ans, il est centenaire pour un labrador.
Et oui. Et si vous voulez, bon, avec mon mari, on voudrait en prendre un autre.
Oui.
Moi, je lui avais proposé à la SPA, mais il me dit, on sait pas d'où ils viennent. Bon, il est pas pour. D'un autre côté, on aimerait reprendre un labrador ou un golden retriever. Mais bon, c'est vrai que, enfin, à notre âge, je veux pas dire qu'on soit très âgé, non. Mais je sais que le labrador petit est destructeur. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Où est-ce qu'il faut qu'on prenne un chien adulte?
Écoutez, vous savez ce que c'est le boulot d'avoir un chiot.
Oui.
C'est vraiment du boulot à plein temps. Hein.
Oui,
vous savez
oui.
que les premiers mois, il y a l'éducation, il y a les bêtises, il faut le surveiller, il faut prendre attention, faire attention
à
son ça mâchouille tout, faut faire attention à son alimentation, faut l'éduquer. Ça, on y passe des heures, c'est tous les jours, etc. Bon, alors la question est-ce que vous êtes prête et votre mari prêt à refaire ça, parce que vous vous rendez compte, c'est il y a 14 ans que vous avez eu votre chiot, c'est-à-dire qu'il y a 14 ans vous avez passé beaucoup de temps à l'éduquer, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'est du boulot. Alors que c'est vrai, il y a beaucoup de retrievers, parce que vous êtes plus dans le retriever, Anne-Marie, ce que j'ai compris, c'est vous avez labrador ou golden. Et là, il y a beaucoup de retrievers ou de croiser les retrievers, ça fait rien, dans les refuges de tous les âges. Il y a même des chiots. Faut le savoir. Donc, il y a des adultes. Alors, ce qu'il y a de bien avec les adultes, alors certes, on connaît pas leur passé, et alors, ça fait rien. On les prend à l'instant T, c'est-à-dire au jour où ils arrivent chez vous, vous le prenez comme il est, vous l'apprivoisez, et vous, et lui, vous apprivoise. C'est ça, la réalité d'un chien de refuge.
Et ça sera moins compliqué que de prendre un chiot, Laetitia.
Beaucoup moins compliqué. Alors, sauf s'il a déjà des troubles du comportement, mais dans ces cas-là, vous voyez ça avec le refuge, mais franchement, faut pas se dire que tous les chiens en refuge ont des problèmes. Non, ils peuvent être abandonnés parce que leur maître est décédé, est malade, est parti, etc. Enfin, il y a 10 000 raisons pour avoir un chien en refuge. Il y en a beaucoup qui vous attendent. Moi, Anne-Marie, puisque vous avez vécu 14 ans avec un chien adulte, pourquoi pas ne prendre un autre chien adulte? Je vous dis, prendre un chiot, c'est du boulot. Alors, c'est du bonheur, mais c'est du boulot. Donc, il va falloir bien réfléchir là-dessus, Anne-Marie. Prendre un chien adulte, autre, c'est bien parce que aussi il aura une autre personnalité que votre chien qui vient de décéder, et vous n'allez pas le comparer, parce que le problème du chiot, c'est que c'est beaucoup de boulot, etc. Vous aurez tendance aussi à le comparer avec le chien que vous venez de perdre, et vous allez lui trouver beaucoup de défauts, et vous allez donner beaucoup de qualités au chien qui vient de décéder, alors que vous souvenez plus des premiers mois et des premières années où c'était un peu rude quand même avec le chien. Donc moi, je vous conseillerais quand même aller faire un tour dans les refuges, aller voir un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un refuge pour adopter. Vous pouvez aller dans un refuge, voir les chiens,
bien sûr.
Et peut-être que vous aurez un coup de cœur réciproque avec un chien.
À partir de quel âge un chien comme ça devient adulte et plus tranquille, on va dire?
Le problème des retrievers, des labradors et des golden retrievers, c'est qu'ils sont un peu bébés dans leur tête longtemps.
D'accord.
C'est-à-dire que vous avez des chiens qui sont quand même enfants jusqu'à 2-3 ans, bien souvent.
Carrément.
Ah oui, mais c'est ce qui fait leur charme aussi.
Bien sûr.
Parce qu'ils sont vraiment géniaux, c'est des chiens géniaux, quoi. Mais
ils peuvent tout manger dans la maison jusqu'à 2-3 ans.
Ah non, ça veut pas dire qu'ils mangent tout dans la maison jusqu'à 2-3 ans, c'est qu'ils ont un comportement d'enfant, c'est vrai, pendant 2-3 ans. Mais vous pouvez dès les premiers mois faire en sorte qu'ils ne mangent pas tout. Vous savez, c'est tous les chiots, hein, c'est pas seulement les golden
sûr,
ou les labradors.
Évidemment.
Tous les chiots inspectent leur environnement par la bouche, donc aiment bien porter à leur bouche tout ce qu'ils ont à portée de gueule.
Mais oui, ils découvrent leur
environnement
avec leur
bouche.
Mais
ça fait partie du chiot, ça fait partie de son développement, faut faire avec. Donc Anne-Marie, avant de vous décider, allez en refuge.
D'accord.
Vous allez peut-être tomber sur la perle rare, celle pour qui vous aurez un coup de cœur, et ça sera une belle histoire d'amour.
Merci beaucoup Anne-Marie. La météo, les infos, Laetitia, bientôt 7h. Et on revient, on attaquera notre deuxième partie dédiée aux animaux avec plein d'histoires un peu coquines concernant les animaux.
Ah mais c'est l'été.
Ça va être violent ou chaud?
Non, mais ça va. C'est pas interdit aux moins de 12 ans.
Nos jeunes auditeurs pourront écouter, Laetitia.
Bien sûr,
c'est de la biologie.
C'est la nature.
C'est la nature.
Voilà.
Bon, voilà. La météo, les infos sur RMC et la vie sentimentale et sexuelle des animaux. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.